RFI Matin.
RFI Matin, suite F1, un nouveau journal dans 18 minutes et à cap sur New York au lendemain du cessez-le-feu fragile. Conclu entre l'Inde et le Pakistan après la brusque escalade militaire d'hier matin, vous entendrez le point de vue des États-Unis et de l'ONU où l'on espère désormais un dialogue entre les deux pays. Ce sera avec Karine Auton, notre correspondante sur place. Mais tout de suite les sports. Avec vous, Baptiste Leduc, on parle de boxe ce dimanche. Souleymane Sissoko combattait à Malabo, en Guinée équatoriale, hier, dans sa route vers le titre de champion du monde des poids welters.
Et sa route, elle continue, Julien, puisque le boxeur franco-sénégalais s'est imposé sur décision unanime face au lituanien Egidijus Kavalioskas. Un début de combat compliqué pour Sissoko, mais le natif de Dakar s'est bien repris. Analyse et projection du boxeur au micro de Sofiane Amazian.
Je suis très content de cette victoire face à un très bon boxeur, un boxeur vaillant, un boxeur puissant. Il fallait faire preuve vraiment de résilience. J'ai été mis deux fois au tapis. Il fallait aller la chercher cette victoire. Comme on dit, une demi-finale, ça se gagne. Et vraiment, je suis allé au trip, donc je suis très content. J'ai été félicité par mon adversaire, par sa team. Le combat, il a vraiment tenu toutes ses promesses. Il faut être deux pour faire un beau combat. Donc je tiens aussi à féliciter mon adversaire. Et maintenant, voilà, je suis content parce que le prochain combat, c'est pour la ceinture mondiale. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'ai hâte. Vraiment, merci à tous. Merci pour tous vos messages d'encouragement. Fallait aller la chercher et j'y suis allé. Voilà, en tout cas, merci beaucoup.
Souleymane Sissoko, désormais challenger officiel des welters de la WBC. Il attend son combat pour le titre face à Mario Barrios.
Le foot à présent en Angleterre. Manchester United reçoit West Ham ce dimanche pour la 36e journée de Premier League.
C'est le 17e chez le 15e. Une saison à oublier pour les Red Devils et les Hammers, mais un match particulier quand même. Pour Aaron Wan-Bissaka, le défenseur de West Ham revient sur les terres de son ancien club. Il a éclos à Manchester, mais c'est depuis Londres qu'il a appris une bonne nouvelle cette semaine. Il a été sélectionné pour la première fois avec la République démocratique du Congo, Victor Messistrano.
Les Léopards plutôt que les Trois Lions. À 27 ans, Aaron Wan-Bissaka a donc choisi la tanière de RDC, où il a évolué chez les moins de 17 ans, avant de porter le maillot de l'Angleterre jusqu'en catégorie espoir. Né en banlieue londonienne et formé dans le pays, le défenseur d'origine congolaise était éligible pour ces deux nations, et il a donc été convaincu par le sélectionneur Sébastien De Sabre de venir renforcer les Léopards. Arrivé des Red Devils à West Ham l'été dernier pour environ 15 millions d'euros. L'arrière droit affiche une solide expérience. Plus de 200 matchs en Premier League. Il n'a manqué qu'une rencontre de championnat cette saison. Et Aaron Wan-Bissaka n'est pas le seul nouveau de cette liste. Comme lui, Afimiko Pululu, également éligible avec l'Angola, a opté pour la RDC. L'attaquant du club polonais de Jagiellonia est le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Des renforts de choix donc pour une sélection pleine d'ambition à la lutte pour une première qualification en Coupe du Monde depuis 1974.
Les Léopards de la RDC feront étape en France le mois prochain. Deux matchs amicaux à Orléans les 5 et 8 juin contre le Mali et Madagascar.
Et puis un petit détour par les Seychelles à présent, pourquoi pas, puisqu'aux Seychelles se tient la Coupe du Monde de Beach Soccer.
Et il fait beau là-bas, la compétition d'ailleurs qui s'achève aujourd'hui. La finale opposera le Brésil à la Biélorussie qui a éliminé le Sénégal ce samedi en demi-finale. Défaite 5-2 des Lions comme il y a 4 ans au même stade de la compétition contre le Japon. Beaucoup d'amertume pour le sélectionneur sénégalais Galassila au micro de Babacar Fall.
On a fait tout ce qu'il fallait faire, on a arrêté nos occasions, on a pris des bibidons. Il y a une grande déception, ça on ne le cache pas, même si l'objectif était très haut. Parce que quand il tombe l'année dernière, premier tour, et après voilà, on te dit voilà, il fallait décrocher la Coupe du Monde. Pour moi, c'était trop ambitieux. Mais là, c'est sénégalais. On veut toujours gagner. Mais gagner, c'est un processus. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne recule pas, je suis un gagneur. Mais après, voilà, après, il ne fallait pas dire que tout ce qu'on a fait n'est pas bon. Donc, gagner tes 4 matchs avec la manière, avec la rigueur. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de rentrer avec une médaille. Maintenant, après, voilà, il fallait laisser les gosses récupérer, dormir. Et c'est très difficile de les parler. Et après, voilà, je pense que c'est un autre jour. Et après, on fera ce qu'il faut faire pour gagner le match, Inch'Allah.
Cette troisième place, cette médaille de bronze, il faudra aller la chercher sur le sable contre le Portugal. Coup d'envoi à 14h en temps universel.
Merci Baptiste Leduc, bon dimanche.
RFI Matin.
Ce sont deux affaires emblématiques de la libération de la parole et de l'écoute des victimes de violences sexuelles. Deux affaires qui passent ou repassent en ce moment devant la justice américaine. Le procès du rappeur P. Diddy s'est ouvert cette semaine à New York et le producteur américain Harvey Weinstein est à nouveau devant les juges. Ce sont les accusations contre ce dernier qui ont lancé le mouvement MeToo. C'était il y a bientôt 8 ans et justement, quel bilan à travers le monde de cette explosion de témoignages qui a contribué à des avancées mais qui suscite encore de profonde résistance. C'est notre tour du monde des correspondants qui commence ce matin en Suède, pays souvent érigé en modèle en la matière. En Suède, MeToo a donné lieu à plusieurs mesures à la fois politiques, juridiques, sociétales. Lesquelles, Ottilia Ferret ?
Alors un des changements les plus emblématiques dans le sillage de MeToo en Suède, ça a été la loi adoptée le 23 mai 2018. Cette loi, elle a redéfini le viol en reconnaissant qu'un rapport sexuel doit être fondé sur un consentement explicite et volontaire, même sans menace ou violence physique. En gros, depuis 2018, seul un oui est un oui. Cette loi, elle est considérée comme l'une des plus progressistes d'Europe et avec elle, on a vu apparaître deux nouveaux délits, le viol ou l'abus sexuel par négligence, ce qui s'applique au cas, par exemple, où la personne est endormie, très ivre ou tétanisée. Et pour appuyer cette loi, l'égalité des sexes et des droits humains sont maintenant enseignés dès le primaire. Des cours sur le consentement, le respect et les relations égalitaires sont aussi dispensés jusqu'à l'université. Côté entreprise, des formations obligatoires sur le harcèlement sexuel destinées aux employés comme aux cadres ont aussi été mises en place. Le mouvement MeToo a eu un impact donc profond et durable en Suède. La parole s'est massivement libérée et les discussions sur le harcèlement et le consentement sont devenues aujourd'hui la norme.
Ottilia Ferret en Suède, on reste en Europe, en Espagne, avec une affaire qui a marqué les esprits, ce baiser imposé par l'ex-patron de la fédération de football Luis Rubiales en août 2020. À l'attaquante de l'équipe nationale, Jenny Hermoso, et qui avait très vite déclenché la colère, Diane Cambon.
Jamais un baiser n'aura provoqué une telle onde de choc. Quelques heures après ce smack imposé à la joueuse Jenny Hermoso par Luis Rubiales, des milliers de commentaires fleurissaient sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Se acabó, cela suffit ». L'Espagne découvrait l'existence du sexisme dans le football et par extension dans toutes les disciplines sportives de haut niveau. Dans de nombreuses fédérations, du basket à l'athlétisme en passant par la natation, des voix se sont faites entendre pour dénoncer les attitudes machistes auprès des sportives. Ce mouvement de protestation s'est ensuite étendu au reste de la société qui a pris conscience dans toute son ampleur de la notion juridique du consentement. Luis Rubiales a écopé d'une amende de 10 800 euros pour agression sexuelle, une peine très éloignée des 2 ans et demi de prison requis par le parquet.
Diane Cambon en Espagne et cap à présent sur l'Afrique du Sud où la lutte féministe s'attaque aussi au féminicide. Le pays est l'un des plus touchés au monde par les meurtres de femmes et une affaire avait provoqué la colère en 2019. Le viol et l'assassinat dans un bureau de poste d'une étudiante de 19 ans. La nation sous le choc avait alors connu de grandes manifestations. Depuis, la parole s'est libérée, mais les changements concrets se font attendre, Claire Bargelès.
Oui, et pourtant, les violences physiques et sexuelles envers les femmes ont été qualifiées de crise nationale et de nouvelle pandémie par le gouvernement sud-africain, qui a mis en place un plan d'action en 2020 pour y répondre. Cependant, 5 ans plus tard, les chiffres ne se sont pas vraiment améliorés, avec près de 10 femmes tuées chaque jour, principalement par leurs partenaires, selon les dernières statistiques de la police, et plus de 100 viols quotidiens recensés. Il y a eu le passage de plusieurs lois, mais sur le terrain, les activistes peinent à en voir les effets. Encore récemment, l'opinion publique a été choquée par le viol d'une enfant de 7 ans à l'est du pays. En réaction, des centaines de personnes se sont rassemblées devant la présidence le mois dernier, relançant le slogan « Am I next ?», soit « Suis-je la prochaine ?». Et pour symboliser leur désarroi, les manifestantes ont dévoilé un immense cercueil recouvert de milliers de perles traditionnelles zoulous, chacune d'entre elles représentant la vie d'une femme victime de féminicide l'année dernière.
Claire Bargelès, et puis direction le Japon pour finir, qui fait figure d'exception. Ici, le déferlement de témoignages et de révélations n'a pas eu lieu. Les grands médias japonais restent réticents à évoquer les cas d'agression sexuelle malgré plusieurs affaires très médiatisées. En 2019, la journaliste Chiori Ito avait ainsi gagné un procès historique contre un confrère qu'elle accusait de viol. Mais elle estime aujourd'hui que le Japon n'a toujours pas créé d'espace sûr pour les victimes qui dévoilent leur identité et demandent justice, Frédéric Charles.
Seuls 4% des japonaises victimes de viol osent le signaler à la police. Shiori Ito avait dû s'exiler à Londres à cause de menaces de mort. Les procureurs, la plupart des médias, avaient d'abord ignoré ces accusations de viol portées contre un journaliste proche d'un ancien premier ministre. Shiori Ito a raconté son combat dans un documentaire. Il a été diffusé dans le monde entier, sauf au Japon, pour des raisons juridiques. Sa victoire judiciaire a libéré la parole des victimes d'agressions sexuelles. Elle incita Rina Gonoi, une militaire, à accuser publiquement 3 anciens soldats de l'avoir sexuellement agressé. Ils ont été condamnés. Une réforme a clarifié la définition du viol dans le code pénal pour faciliter les poursuites. Shiori Ito a l'impression que les médias ne peuvent plus ignorer la violence sexuelle.
Frédéric Charles à Tokyo et notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez sur RFI.fr. 9h52 à Paris. Et dans l'Afrique en marche, ce matin, un secteur en plein essor, celui du jeu vidéo. Alors qu'on estime qu'un gamer sur 10 dans le monde est africain, le marché du jeu africain se développe à toute vitesse. Il représentait l'an dernier 1,8 milliard de dollars avec une croissance 6 fois plus importante que la moyenne mondiale. Et des spécificités, la plupart des Africains qui jouent le font sur leur smartphone et l'enjeu, c'est aussi de développer des jeux qui font écho aux cultures locales. Les studios de création africains se multiplient et Frédéric Gara nous présente aujourd'hui l'un d'entre eux, la société sénégalaise Kaifo. Ça veut dire « viens jouer » en Wolof.
Si vous connaissez cette petite musique, eh bien c'est peut-être parce qu'un jour vous avez joué à Dakar Secret sur votre smartphone. Dakar Secret, comme des dizaines de jeux, c'est une conception de Kaifo, une société sénégalaise qui depuis 5 ans crée des jeux téléchargeables à destination du public africain. Casse-tête, jeux de course, football ou bien jeux éducatifs, des jeux qui présentent une unité, celle d'adopter un look et des codes africains. C'est ainsi par exemple que le Candy Crush de Kaifo fait évoluer non pas des bonbons dans des colonnes, mais des masques traditionnels. Tiernion Ndiaye, l'un des concepteurs de jeux chez Kaifo.
On était fan des jeux vidéo, donc on jouait, mais souvent on ne voyait pas des personnages africains au niveau des jeux. Donc c'était important pour nous de montrer une représentation des personnages africains au niveau des jeux vidéo. On a par exemple un jeu Détective Sera, où l'ensemble des lieux s'est inspiré des lieux emblématiques qu'on retrouve ici à Dakar, qui permet aussi de montrer notre culture à travers ce jeu-là.
Kaifo en Wolof, ça veut dire « viens jouer ». C'est l'idée de l'invitation de venir jouer à des jeux vidéo africains.
Julien Herbin, ex-Ubisoft, une major du jeu vidéo dans le monde, est le fondateur de Kaifo.
Le marché du jeu vidéo en Afrique est essentiellement présent sur le smartphone, avec 95% des joueurs qui jouent sur smartphone. La particularité de ces jeux, en fait, c'est qu'ils ne s'installent pas. C'est des jeux instantanés, donc il suffit d'aller sur notre site web et on peut y accéder directement. On compte un nombre de joueurs uniques mensuels. On cumule environ 100 000 joueurs sur nos 4 ou 5 jeux les plus populaires. Il y a évidemment des sociétés qui ont des millions, voire des dizaines de millions de joueurs mensuels hein, à l'échelle mondiale. Mais pour un petit studio africain qui débute, je trouve que c'est quand même assez intéressant comme chiffre. La croissance des marchés africains ne fait que grandir largement plus vite que les autres marchés au niveau mondial.
Pour répondre à ce marché grandissant, il faut des compétences. Or, les écoles spécifiques de conception de jeux vidéo sont rares en Afrique. Aussi, depuis un an et demi, un Sénégal Gaming Hub, un centre de jeux, a été mis en place par Kaifo et un autre studio de jeux vidéo, Maseka, en partenariat avec la délégation sénégalaise à l'entrepreneuriat et l'ambassade de France. Marie-Pierre Thiam est coordinatrice de cet incubateur à talents créatifs.
C'est l'idéal pour les jeunes qui sont incubés là-bas de pouvoir avoir cette formation en game design pour qu'ils puissent on peut comprendre ce que c'est que le game design. C'est beaucoup de domaines en fait qui s'allient pour pouvoir faire des jeux vidéo. On a des artistes en 2D, des artistes en 3D, il y a des animateurs 2D. On a même des sound designers, les gens qui s'occupent de faire les effets sonores, la musique du jeu et tout ça. L'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent travailler ensemble en synergie pour arriver à créer des jeux.
Ce Sénégal Gaming Hub a été financé par l'ambassade de France à Dakar. Mathieu Bécu, attaché de coopération, innovation et économie numérique.
Si on imagine qu'à l'échelle mondiale, on a un marché du jeu vidéo qui représente 300 milliards d'euros environ et que 1% de ce marché est capté par le marché africain, il est important de pouvoir se dire qu'il y a un potentiel considérable avec une demande qui est exprimée, mais avec une capacité de répondre à cette demande avec la création de jeux vidéo sur des contenus africains qui sont extrêmement faibles aujourd'hui. Donc l'idée était de pouvoir développer un écosystème favorable sur le continent. Et ça, c'est une approche assez unique.
Au terme de 6 mois d'incubation, les apprentis concepteurs peuvent toucher, pour les projets les plus aboutis, une bourse afin de créer leur propre société de production de jeux vidéo et peut-être un jour, comme Kaifo, s'amuser à développer des jeux pour la jeunesse africaine.
Frédéric Garin pour l'Afrique en marche. Bientôt 8h en temps universel et bientôt l'heure de nous dire au revoir. Avant la fin des RFI matin, un peu de musique avec les rappeurs belges Caballero et Jean Jass. Et l'une des plus belles voix parmi les nouveaux talents de la musique francophone, le français d'origine camerounaise Yamé. Ils sont tous les trois réunis sur le titre Panorama. C'est dans la sélection du mois de RFI.
Les yeux rouges, elle me dit que c'est une allergie ou qu'elle a inhalé le shit. Moi je dis que c'est ni l'un ni l'autre, même si elle a l'air dit. Elle a un petit cœur délicat, si j'appuie plus fort, peut-être qu'il se casse. A tous mes gars maladroits, je fais une dédicace. Des attardés avec la baffe qui coule, sur mon rouge et un peu de paprika. En dessert tarte aux abricots, la vie de César, on y a pris goût. Puis un beau jour, tu périmes, t'y peux rien. Son cercueil dans le coffre d'une berline, livraison au cimetière plus vite que Uber Eats. Bye bye le consumérisme, le narcissisme numérique. Que des mots compliqués pour qu'ils puissent se branler sur mes rimes. Merci à tous ceux qui me valorisent. Là que trop on la vaporise. Son mec nous croise quand on va au riz. J'ai un métier à au riz.
Dans mon univers, traverse le portail. Ils pensaient que j'avais disparu comme ma cassette de Ojai, comme la barrière de corail. Fumer deux cigares sur l'antipop, je le fais pour ma petite gueule. Des fois pour le hip-hop. J'aime quand la viande tombe de l'os toute seule. Quand y'a plus rien à faire, quand c'est déjà gagné. Validé par X et la cahier. Parmi les goats sous les araignées. Amis ma B, je l'imagine sans ses vêtements. Chaque jour est un grand événement. Fais ses bombées, je la regarde avancer fièrement. Elle gère de ouf les squats. Premier disque que j'ai acheté, c'était touche d'espoir. Je m'entraînais tous les soirs. Bien écrire comme Youssef Swat. Vaincre ma timidité. Dans mon cerveau, y'a 10 000 idées. C'est un bordel mon frère, il me faudrait des moyens illimités.
Caballero, Jean Jass et Yamé sur le titre Panorama. La sélection du mois de RFI que vous retrouvez bien sûr sur musique.rfi.fr. Et voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Un grand merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. Demain, vous retrouvez Andréane Mellard à partir de 5h, temps universel. Bon dimanche à l'écoute d'RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.